18h30, 19h, La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Bonsoir à tous et bienvenue dans La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation sur Méga FM en partenariat avec le syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Ce soir, nous allons parler de la communauté de communes de la Sologne des Rivières à travers différents axes, ces axes économiques, touristiques et humains, notamment les services à la personne, petite enfance notamment. Alors nos invités ce soir, à côté de moi, monsieur Olivier Pavy, président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, maire de Salbris et chargé du suivi de l'étude pour la définition d'un schéma économique à l'échelle du pays de Grande-Sologne. Monsieur Pavy, bonsoir.
Bonsoir.
Également à mes côtés, monsieur Jacques Laure, deuxième vice-président de la communauté de communes de la Sologne des Rivières, maire de Pierrefitte-sur-Sauldre et vice-président du pays de Grande-Sologne en charge du tourisme. Donc c'est l'un des pôles que nous allons développer ce soir. Et viendra nous rejoindre en deuxième partie d'émission monsieur Pierre Maurice, troisième vice-président de la communauté de communes Sologne des Rivières, maire de Selles-Saint-Denis et vice-président de l'association départementale des maires ruraux. Alors on va tout de suite ouvrir cette émission avec vous monsieur Pavy pour peut-être repréciser à nos éditeurs l'étendue de cette communauté de communes. La Sologne des Rivières, ça comporte combien de communes ?
9 communes au total, donc qui vont de Marcy-Angot, pour être le plus à l'ouest, jusqu'à Orsay, donc limite Vierzon, en passant par Pierrefitte-sur-Sauldre, donc limite du Cher, puisque c'est et donc Salbris, Théiet, Souhem. Donc, vaste territoire.
C'est ça, vaste territoire, effectivement. Alors justement, comment est-ce que ça se coordonne ? Avec toutes ces communes.
Eh bien, ça se coordonne parce qu'on travaille ensemble et on a plaisir à se retrouver autour des projets de développement de ce territoire et de la communauté de communes. C'est vrai que cette communauté a eu des difficultés de fonctionnement pendant le précédent mandat et ensemble, on travaille justement à la remise, en ordre d'un certain nombre de dossiers. Alors c'est vrai que la recomposition à venir du conseil communautaire va nous obliger aussi à recadrer un petit peu entre nous les éléments de travail et c'est pour ça qu'on en parlera cet après-midi en bureau municipal à nouveau pour voir les modalités d'une charte de fonctionnement compte tenu que la composition va être bouleversée à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité le recours qui a été fait par mon prédécesseur à la ville de Salbris contre l'arrêté préfectoral puisqu'il trouvait que Salbris était sous-représenté à la communauté de communes.
D'accord. Et alors par rapport à un plan économique, comment ça se passe du coup ?
Alors ça fait partie des compétences de la communauté de communes. Sur un plan économique, on est en prospection d'entreprise. Il y a certains dossiers et notamment sur l'ancien site du GIAT qui sont toujours en étude avec le Conseil général. Malheureusement, comme nous le savons tous, le contexte économique est loin d'être favorable. Les choses vont encore, être amenées à bouger puisqu'on a appris la fermeture de l'EPMU, l'établissement militaire de Salbris, prévu pour entre 2017 et à partir de 2017, entre 2017 et 2019, ce qui va nous obliger à repenser aussi, l'utilisation du foncier à venir pour l'implantation d'entreprises.
D'accord, donc là, beaucoup de questions sont amenés à être posés, beaucoup de réflexions également.
Beaucoup de réflexions. C'est la raison pour laquelle il était important que le pays, parce que le développement économique va au-delà de notre propre communauté de communes, que l'ensemble du pays réfléchisse au développement économique et développement économique autour des entreprises, de l'industrie, bien entendu de l'artisanat, puisque ça, on a un tissu artisanal qui est très, très dense. Il faut le conserver et puis le développer, du commerce de proximité. Et puis également du tourisme, parce que ça c'est un axe important. Deux heures de Paris dans sur un territoire très préservé, de qualité, où là justement on a un développement important, et un potentiel important de développement économique.
Alors justement, pour rebondir sur cette question du tourisme, vous, Jacques Laure, vous êtes c'est un peu votre fer de lance à vous le tourisme. Comment ça se passe toute cette politique touristique de la communauté de communes, comment est-ce qu'elle se construit en fait ? Quels sont les projets, quelles sont les évolutions attendues ?
Oui, la Sologne avait un aspect extrêmement négatif concernant le tourisme jusqu'à maintenant, un manque de cohésion avec tous les acteurs. Et quand la compétence tourisme a été prise au niveau de la communauté de communes Soligne-des-Rivières, on a réussi à faire intégrer que le tourisme avait une valeur économique identique aux autres. Et on a constaté aussi le manque de cohésion qu'il y avait entre tous les offices. Donc la première chose que l'on ait faite, c'est de mettre tous les techniciens des offices en réseau, en prenant bien soin de faire un travail de terrain, en mettant de côté les politiques, pour éviter un petit peu les conflits idéologiques. Et ainsi, sous la houlette de la Soligne-des-Rivières, tous les offices de tourisme du secteur ont travaillé ensemble, ont fait des échanges, etc. Sauf qu'on est arrivé à un point où les communications, c'était bien, les communications entre techniciens, c'était bien, mais il fallait passer à l'échelon supérieur, on ne pouvait plus aller plus loin. Donc l'idée à la Soligne-des-Rivières était de faire émerger une marque, la marque Sologne, comme il y a la marque Berry, comme il y a la marque Val-de-Loire. On a estimé qu'une marque, c'était l'identité d'un territoire, ça valorisait le territoire, et puis c'était aussi un lien entre tous les acteurs, c'était un fil rouge entre tous les acteurs du territoire. Donc à ce moment-là, on a contacté conseil général, conseil régional, l'ADT et le conseil régional de tourisme. Et on a eu la chance d'arriver juste au moment de la signature d'un contrat département-région. Il y avait quelques crédits qui étaient encore disponibles. C'est ainsi que conjointement, le conseil général et le conseil régional nous ont suivis absolument. Et on a dégagé 150 000 euros pour faire éclore la marque.
D'accord.
Donc, c'était une bonne nouvelle. C'était la première fois que la Sologne se structurait. C'est la première fois que tous les acteurs se mettent autour d'une table pour parler tourisme et pour construire la Sologne ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire ça les des chasseurs, des propriétaires, des randonneurs, du sport équestre, absolument tout le monde. Donc, on a lancé cette opération et dans un premier temps, donc il a fallu, consulter et positionner la marque. Pour positionner la marque, puisque on s'est aperçu que la Sologne, jusqu'à maintenant, véhiculait, pour les jeunes générations, une image un peu vieillotte. C'était un territoire fermé, dédié à la chasse et non au tourisme, où le touriste en lui-même ne se sentait pas à l'aise. Et notamment, les jeunes générations parisiens, etc., n'avaient pas idée de venir en Sologne, parce que pour eux, c'était un territoire un petit peu rébarbatif et un peu fermé.
Ceci dit, avec maintenant l'image du tourisme vert, ça peut-être faciliter un petit peu les choses.
Voilà, donc il fallait casser cette image et il fallait positionner la marque. Donc c'est ainsi que la marque a été positionnée et je vais vous dire, qu'est-ce qui a émergé ? C'était un territoire de nature, d'expérience et de rencontre où il fait bon se ressourcer le temps d'un week-end ou d'un court séjour. Voilà le positionnement de la marque. Donc une fois que cette marque a été positionnée, il faut passer maintenant au code de marque et mettre en place un petit peu les premières stratégiques sur le territoire.
Donc concrètement, comment ça fonctionne
Alors,
maintenant
Concrètement, donc on en est maintenant, on a la deuxième phase au code de marque. Donc on vient de recruter un collaborateur et un conciliateur sur une année. Et cette personne va être chargée, de faire le logo, c'est-à-dire le code de marque, et tout ce qu'il y a derrière le code de marque, tout ce qu'on veut mettre derrière la marque. Va être chargée également de mettre en place le site internet au niveau de la Sologne, puisque l'objectif c'est de faire un portail Sologne. Et puisqu'on sait bien l'importance qu'a internet actuellement sur tout ce qui est tourisme, et on mesure quel retard on avait. Donc ça sera son travail. Et puis le travail est également, c'est d'étudier comment on va redessiner la position administrative du tourisme sur la Sologne. C'est-à-dire actuellement, ça éclate un petit peu sur nos quatre communautés de communes. Et je crois qu'à court ou à moyen terme, il faudra, on est en train d'étudier, de créer une structure unique de tourisme sur la Sologne. D'abord, en premier lieu, sur le Loir-et-Cher avec les quatre communautés de communes, parce que le Loir-et-Cher est vraiment moteur dans cette affaire-là. On travaille naturellement en liaison avec le Loiret, qui est partant aussi. Le Cher se fait un peu tirer l'oreille, parce que lui, il s'investit beaucoup sur la marque Berry. Mmh. Donc il se dit, Berry-Sologne, est-ce qu'il n'y a pas une petite dualité? Mais enfin, voilà. Mais donc, pour l'instant, disons, le noyau dur, ce sont les quatre communautés de communes de notre Sologne synergétique, que j'appelle, quoi, notre Sologne profonde. Et pour faire émerger, donc, cette politique touristique qui est indispensable à notre territoire.
Vos impressions, Monsieur Bavy, par rapport à tout ça? On s'aperçoit un petit peu de l'ampleur du travail et que chaque chose est voilà mesurable et c'est point par point que vous avancez en fait. Hein. Ça se construit pas comme ça d'un petit coup de baguette magique. Hein.
Ah, ce serait merveilleux.
Ce serait merveilleux.
Mais c'est vrai qu'on aurait besoin d'une baguette magique en ces temps difficiles. Non, mais bien sûr, je partage totalement. Puis avec Jacques Laure, on s'est retrouvé de toute façon sur le développement du tourisme, puisque Jacques a évidemment, je dirais, l'histoire est à l'origine d'un certain nombre d'actions, et notamment donc autour de la marque Sologne. Mais on s'est totalement retrouvé après mon élection quand on a parlé de ça. Ça fait partie évidemment du développement donc économique du territoire de Sologne, la Sologne traditionnelle telle qu'on l'entend. Et c'est vrai qu'on va du sud d'Orléans jusqu'au Pays Fort. Et donc c'est une identité de territoire qu'il faut avoir, et tout cela évidemment a des conséquences et des engagements et voilà et donc des conséquences économiques parce que ça concerne tout le monde. Et le tourisme on peut l'imaginer autour du des activités traditionnelles que sont la randonnée, il y a la Sologne en vélo, la vente de produits, autre chose. Mais le tourisme aussi, c'est faire découvrir des milieux naturels totalement préservés. C'est également par ce biais-là, intéresser et inciter des industriels à faire des travaux de recherche scientifique, et on pourrait très bien accueillir des unités de recherche tout à fait spécifiques pour arriver justement à mener des études sur le territoire Sologne, ce qui n'a pas été fait à la différence de certaines autres régions à l'heure actuelle. Donc vous voyez que le tourisme en lui-même, c'est une chose, c'est un axe de développement, et il y a un axe de développement aussi, complémentaire par rapport à cela. Donc tout ça s'inscrit évidemment dans un territoire, dans un schéma de développement. C'est la raison pour laquelle il y a cette étude qui est faite, parce que chaque territoire, enfin au niveau de chaque communauté de communes aujourd'hui, ne peut pas répondre à l'ensemble, je dirais, des souhaits de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on est complémentaire, et on est complémentaire également dans l'offre que l'on peut avoir, l'offre d'infrastructures touristiques, mais aussi l'offre d'infrastructures foncières pour accueillir justement tout ce développement économique.
Et alors cette fameuse marque Sologne verra le jour à quel moment, vous pensez, encore une fois, dans l'idéal, ce serait pour quand?
Écoutez, là donc le coordonnateur est recruté, il commence sa mission au 1er janvier, donc au cours de l'année se met en place le code, etc. Et la marque va être opérationnelle à la fin de l'année.
D'accord.
Mais je trouve que c'est... moi qui suis un vieil élu depuis 30 ans, c'est la première fois que je vois un consensus comme ça sur la Sologne. On a réussi à ce que tout le monde dialogue, à ce que tout le monde se parle. Et donc j'ai bon espoir que ça réussisse, puisque quand on parlait de tourisme jusque là en Sologne, c'était une levée de bouclier un petit peu. Alors que là, on sent une volonté, on est parfaitement soutenu par l'ADT, par le département et par la région, donc ce qui est quand même un gage de réussite. Et voilà, donc...
Et ce qui donne encore plus de moteur et de volonté pour poursuivre.
Voilà.
Exactement. Donc quand on dit la Sologne, terre de qualité, d'identité de qualité, c'est aussi une terre de cohérence aussi.
Absolument.
Alors, en deuxième partie d'émission, nous allons évoquer un autre secteur aussi, hein, assez spécifique d'ailleurs à cette communauté de communes, c'est les services à la personne. Et ce sera avec Pierre Maurice, donc qui viendra nous parler de ce secteur-là. En attendant, effectivement, on a bien compris que le tourisme avait ce rayonnement qui va même au-delà des frontières, non seulement de la Sologne, mais de la France, puisqu'il y a un rayonnement aussi même international. Il faut le savoir. Merci beaucoup, messieurs. Monsieur Pavy, vous restez un petit peu en fil rouge également. Avec on plaisir. Marque une petite pause. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission.
18h30, 19h, le magazine Éco-Innovation en Grande-Sologne sur Méga FM.
Suite de l'émission La Sologne, terre d'identité et de qualité consacrée ce soir à la communauté de communes de la Sologne des Rivières. Nous avons évoqué le pôle économique, le pôle touristique, deux domaines importants de cette communauté de communes. Et nous allons maintenant passer sur un autre pôle, un autre domaine, mais tout aussi important. Il s'agit du service, des services à la personne, notamment le secteur de la petite enfance, enfance et jeunesse. Alors c'est avec vous Pierre Maurice, je le rappelle, vous êtes troisième vice-président de la communauté de communes Sologne des Rivières, également maire de Selles-Saint-Denis. Vous êtes vice-président en charge des services à la personne et c'est un vaste chantier aussi qu'il faut mener. Nous avons toujours à nos côtés hein, Olivier Pavy qui vient en renfort également pour cette deuxième partie d'émission. Alors expliquez-nous un petit peu ce secteur de la petite enfance. Où est-ce qu'il en est actuellement ?
Alors, si vous le permettez, je vais le couper en deux parties. Je vais vous refaire un petit historique de l'avènement de cette compétence à la communauté de communes. Et puis, aujourd'hui, vous dire où on en est dans l'application.
D'accord.
Alors, l'historique, il faut remonter, je vais pas trop m'étendre, parce que ça a été largement déployé, expliqué au moment où ça s'est produit. Mais nous sommes sur des territoires qui ont été assez sinistrés au début des années 2000. Fin des années 90, début des années 2000, avec les départs des activités armement et aussi de l'automobile à Romorantin, puisqu'il y avait sur notre communauté de communes un nombre non négligeable de personnes qui travaillaient aussi à l'automobile à Romorantin. Donc, pour essayer d'attirer de nouvelles entreprises, et là je rejoins le propos d'Olivier Pavis sur les préoccupations en développement économique, pour attirer de nouvelles activités industrielles, il fallait se doter d'outils. Et les activités à valeur ajoutée nécessitent des emplois techniques, voire hautement techniques. Et sur nos territoires ruraux, il y a en particulier des outils qu'il nous faut, c'est accueillir ces familles et les aider dans différents domaines, dont l'assistance aux personnes et en particulier sur la partie petite enfance, enfance, jeunesse. Parce que ces gens-là auront besoin de trouver des nounous, auront besoin de mettre à la crèche leurs enfants dans des bonnes conditions. Et en plus, vous dire qu'autre raison qui ont fait que les responsables, les élus de l'époque se sont penchés sur une étude qui a duré 2 ans hein, à peu près, hein, de 2006 à 2008. Et il y a aussi le fait que les résidents de nos territoires qui sont dont l'un dans les familles l'un des membres a perdu son emploi suite au départ des activités armement, bien l'un ou l'autre ont recherché à de nouveaux emplois qui font que il faut qu'ils se libèrent les deux dans la période de travail, dans tous les jours, vis-à-vis de leur progéniture. Donc, il faut qu'ils trouvent
des services.
Des services pour les accueillir. Donc, c'est ainsi que, à l'issue des deux études dont je vous parlais tout de suite, 2006 à 2008, menées au niveau de la communauté de communes, par nos prédécesseurs, il a été conclu de essayer de mutualiser et de développer les outils concernant la petite enfance, les services qu'on pouvait apporter au niveau de la petite enfance, enfant, jeunesse. Donc, c'est créé sur la base importante hein, des services qui existaient à Salbris. C'est créé au niveau de la communauté de communes un service petite enfance enfant jeunesse qui gère les crèches, les accueils de loisirs, les accueils périscolaires, l'aide aux des assistantes maternelles. Mm-hmm.
Les RAM,
exactement.
En fait,
voilà. Donc c'est un peu tout le voilà la liste des outils qui sont mis en œuvre par le service petite enfance en jeunesse de la communauté de communes. Aujourd'hui, vous donnez une info, enfin pour fixer les idées de l'importance de ces services au niveau de la communauté de communes. Il faut savoir que sur le dernier exercice, le budget de fonctionnement de la communauté de communes, c'était 7 millions, un petit peu moins de 8 millions. Et le budget de fonctionnement du service petite enfance, enfant, jeunesse, c'est pas très loin de 2 millions. Donc, ça fait à peu près un quart du budget. Les effectifs de ce service, c'est 37 permanents, plus les saisonniers, parce que, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, pour les activités d'été, on a besoin de... Il y a des normes, là aussi, hein, pour encadrer les...
Et qui sont quand même assez drastiques.
Et qui sont drastiques, tout à fait.
Concernant la petite enfance, hein, c'est vrai.
Voilà, c'est en gros les chiffres qui caractérisent le service. Le fonctionnement. Ben, ce fonctionnement, c'est... Dans la semaine, c'est surtout, c'est tous les jours, parce que le matin, les papas ou les mamans apportent, nous amènent dans les services leurs enfants avant de partir au travail, et ce qui fait que on a des agents dans différents endroits qui ouvrent les portes vers 7 heures le matin. Et puis ces mêmes parents, comme ils font de longues journées de travail, pas forcément sur place, donc ils ont des temps de trajet parfois assez importants, ben ils ne les récupèrent que en fin de journée, hein, 18h voire au-delà. Donc ça fait beaucoup de travail pour les agents. Nous avons ça c'est ce qu'on appelle nous les périscolaires. Après il y a les gardes périloisirs, c'est-à-dire pour répondre aux besoins des familles qui ne peuvent garder leurs enfants le mercredi. Donc, on ouvre les centres d'accueil le mercredi. Et puis, on ouvre aussi les centres d'accueil, les activités d'été, principalement au mois de juillet. Alors, quand je vous disais petite enfance, enfant, jeunesse, ça va de... les populations concernées des jeunes vont de... Alors, zéro ou un petit peu plus, epsilon en plus, à 16 ans, parce qu'on prend on prend les ados aussi, ce qui aujourd'hui est une activité pas facile.
Alors, de votre côté, Olivier Pavy, quel regard portez-vous justement sur cette problématique qui, du coup, par rapport à sur le plan économique et au niveau des professions, au niveau des entreprises, cette désertification des entreprises a eu un effet conséquent sur du coup les populations en fin de compte. Et là maintenant, on rétablit à peu près le marché du travail sur ce territoire-là. Donc ça implique des familles, des enfants et forcément des structures à mettre en face. Votre regard par rapport à tout ça ?
Alors c'est vrai, là il y a eu une disparition de quelques entreprises. Enfin, c'est pas par rapport à d'autres territoires malheureusement qui ont eu à connaître d'autres pertes d'emplois. Nous on arrivait à peu près à équilibrer. Donc, mais malheureusement il n'y a pas de développement, comme on le souhaiterait. Mais disons que la position du territoire, la position géographique du territoire fait qu'un certain nombre de familles viennent s'installer, que ce soit sur les communes, les petites communes de la communauté de communes ou sur Salbris, parce que justement il y a des infrastructures à la fois donc routières, ferroviaires, mais également d'accueil pour la petite enfance et enfance jeunesse. Ça c'est quelque chose d'important. Et les parents, un travaillant quelquefois à Orléans, l'autre à Bourges ou à Châteauroux ou autre, c'est très pratique pour eux d'avoir à la fois cette localisation et ces services donc de proximité. Alors c'est vrai que c'est une compétence donc de la communauté de communes. Pierre Maurice donc est en charge de ce domaine et c'est un domaine important hein, donc compte tenu des chiffres donc que Pierre Maurice a rappelé, et je le félicite tous les jours pour ce travail parce que c'est une organisation vraiment vraiment lourde avec Brigitte Girard qui est la personne permanente de la communauté de communes, et c'est vrai que tous les deux ils encadrent donc toute cette équipe. Alors, c'est quelque chose d'important dans le cadre aussi d'aménagement des rythmes scolaires, puisque la loi nous a obligés donc à toutes les communes à aménager les rythmes scolaires à la suite donc de la réforme, de mettre en place les temps d'activité partagée, les fameux TAP, avec toutes les difficultés qu'on a rencontrées pour arriver donc justement à mettre en place tout ça. Alors, compte tenu de la compétence de la communauté de communes et compte tenu de l'équipe dont Pierre Maurice a rappelé les effectifs, parce qu'au total, avec les saisonniers, c'est environ 45-46 personnes à l'année, eh bien, il nous est apparu, en fin de compte, plus intéressant de mutualiser ses forces, ses équipes, ses compétences et cette organisation, pour arriver justement à répondre à cette obligation légale d'aménagement des rythmes scolaires. Et donc les infrastructures sont en place, les équipes sont en place, et chaque commune a conventionné avec la communauté de communes pour pouvoir justement disposer d'infrastructures au sein de la communauté de communes pour arriver justement à répondre dans les meilleurs délais et surtout dans les meilleures conditions vis-à-vis des familles à cet aménagement des rythmes scolaires. Mais l'autre élément important que je souhaite à souligner, c'est que comme ce sont des animateurs et des jeunes qui ont différentes casquettes et qui ont donc un certain nombre de compétences dans un certain nombre de domaines, on a aussi par ce biais-là enrichi l'offre des TAP pour avoir non pas faire de la garderie ce qui aurait pu être une solution, et certaines collectivités ont répondu malheureusement dans ce sens, je dirais malheureusement, parce que ce n'est pas tout à fait l'objectif qui est poursuivi par les textes, et puis en plus un peu triste pour les enfants,
hein.
Mais là on a pu justement répondre en proposant une offre très diversifiée d'activités et que les parents aujourd'hui semblent apprécier. D'ailleurs, on est en phase de collecte, j'irais d'observation. Mais Pierre Maurice, je pense, pourra vous en parler maintenant, même plus précisément que moi, puisqu'il le suit au quotidien.
Alors justement, Pierre Maurice, quels sont les premiers constats ?
Quelques précisions. Il faut vous dire que pour compléter le propos d'Olivier. On a effectivement vu tout de suite les communes de la communauté de communes, l'intérêt qu'il y avait à déléguer au service de la communauté de communes l'organisation et l'animation des TAP. Un des avantages aussi, c'est pour avoir des TAP de qualité, pour répondre aux familles et aux enfants sur des activités de qualité, on a profité de la synergie qui existait déjà entre les services de la communauté de communes pour les activités périscolaires, périloisirs, entre les agents et les agents de la communauté de communes et les enseignants, parce qu'ils ils sont rodés à travailler ensemble. Donc là, ça a permis de mettre en place, c'est mon expression, ça n'engage que moi, mais au moins une réponse correct à la loi. Je dis pas que ce qui se fait au niveau des rythmes scolaires, c'est dans tous les points bon pour l'enfant, mais au moins sur ce plan-là, nous avons répondu au mieux qu'on peut le faire dans les collectivités à la loi. Alors, comme disait Olivier, effectivement, on est en phase d'une première évaluation après un bon trimestre de fonctionnement. Ce que je peux vous dire, c'est que sur la participation TAP, qui n'est pas obligatoire, hein, mm-hmm. les familles sont libres de le mettre ou pas mettre, on arrive à des taux de 80%.
D'accord.
C'est très intéressant et ce que je peux vous, c'est significatif, je veux dire, de la satisfaction des familles qui, dans les réunions d'évaluation qu'on est en train de faire sur l'activité qu'on leur propose, sont globalement toutes satisfaites.
Donc ça veut dire des enfants satisfaits, forcément.
Si les enfants sont,
si les enfants sont heureux les parents le sont.
Et rentrent à la maison heureux, automatiquement les parents, normalement, ça devrait bien se passer.
Donc on voit bien, on voit bien.
Ils rentrent un peu fatigués quand même.
Certes, mais bon.
Surtout pour les maternelles. Voilà, ça, les maternelles, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais voilà, mais on est en phase d'observation.
Ça, c'est un autre débat, effectivement.
Voilà, exactement. Et on est en phase d'observation. Et donc puisqu'il y a un comité de pilotage, bien sûr, mm-hmm. donc et de suivi pour cela. Donc, ce sera très intéressant de récolter toutes les observations et à l'association des maires donc du Loir-et-Cher, puisqu'on en a parlé lors de la rencontre avec Monsieur le Préfet il y a quelques jours. Donc il a été pris la décision de faire remonter toutes ces observations à l'observatoire donc d'analyse du Conseil général pour qu'il puisse être fait un rapport de synthèse donc régulier donc à destination de la préfecture et des services de l'État.
D'accord, donc on voit bien que ce territoire est de nouveau en plein essor. Cette dynamique économique touristique petite enfance est vraiment en plein essor. Et puis, que ça perdure le plus longtemps possible, c'est ce qu'on peut dire.
Je pense que c'est notre souhait.
À tous.
Partageons tout cela.
Exactement. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs pour cette émission. On rappelle que vous pouvez donc retrouver en intégralité sur notre site www.megafm.fr ainsi que sur le site du syndicat mixte du pays de Grande-Sologne. Merci à vous Olivier Pavy, Jacques Laure qui était avec nous tout à l'heure et Pierre Maurice.
Merci pour cette invitation.
Passez une excellente soirée à l'écoute de Méga FM.
C'était La Sologne, terre d'identité et de qualité, le magazine éco-innovation en Grande-Sologne de Méga FM.